le 16. Sortie cinéma.
Messieurs, êtes-vous des fans de Quentin Tarantino?
Oui.
OK.
Correct, là.
Correct, ouais. Pas plus que ça, non?
Ben, j'ai pas écouté tous ses films, là, mais j'en ai écouté une couple.
Inglourious Basterds, sûrement que tu l'as vu.
Ouais, ouais. Pulp Fiction.
Django?
Django aussi,
Django!
Ouais.
Ouais. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, ceux qui s'intéressent quand même beaucoup au cinéma vont remarquer qu'il fait juste copier plein d'autres affaires qui ont été faites avant. Ça perd peut-être un peu de crédit, mais il est surtout connu, je crois, pour avoir... ça va un peu à l'encontre de ça, mais comme populariser le cinéma de genre ou le cinéma de série B, entre guillemets. Je le mets en guillemets parce qu'il y a quand même 150 millions pour faire ses films. que, t'sais, dans les années 70, il y avait 40 000 piastres pour le faire. Là. Fait que c'est facile de faire un beau film cheap quand t'as du cash. Ouais. Mais grosso modo, c'est ça, j'ai toujours aimé sa voix. J'aime comment il écrit les histoires. T'sais, c'est très scripté, mais c'est très cool. C'est très badass dans sa construction. Il fait toujours... il est bon pour faire ce que j'appelle des moments de cinéma, des scènes qui vont te marquer vraiment longtemps. Dans Pulp Fiction, il y en a quand même plusieurs. Évidemment, dans Django, la scène avec Leo DiCaprio, on peut pas l'oublier vraiment. Dans Inglourious Basterds, il y en a quand même plusieurs. Mais la tuerie dans le bar, dans le sous-sol avec les schnapps.
Je l'ai écouté plusieurs fois.
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis si vous connaissez un peu le personnage de Quentin Tarantino, c'est pas mal comme un érudit, entre guillemets. T'sais, c'est quelqu'un qui connaît tout sur tout. T'sais, tu lui dis un film obscur des années 30, puis il va être capable de savoir c'est quoi, puis il va être capable de te faire une analyse en deux secondes sur ce film-là, puis te dire pourquoi, en tout cas, peu importe. Il y a vraiment... Ça n'a pas l'air le fun d'avoir une conversation avec lui, parce que, veux pas, tu connais moins d'affaires que lui. Fait qu'il fait juste t'expliquer des affaires. Il t'explique pourquoi il y a autant de net N-word dans mes films. Puis que ça, j'ai le droit. Là, c'est ça. Il a fait un roman il y a 2 ans, je crois, qui s'appelait Once Upon a Time in Hollywood, qui a été porté... c'est le contraire, en fait. Il a fait un film, puis après ça, il a fait un roman basé sur son film qui raconte l'histoire du film, mais pas juste ça, qui rajoute la chair autour de l'os. Mais là, il sort, puis c'était attendu quand même par plusieurs cinéphiles. Il est sorti un peu plus tôt, au mois de novembre, Cinema Speculation, donc son premier non-fiction, livre non-fiction. Donc, c'est des essais de cinéma un peu, c'est des réflexions qui se posent sur des films qui l'ont marqué, mais pas juste. En tout cas, c'est vraiment particulier parce que j'aurais aimé ce livre-là que je l'ai aimé finalement. Il est juste disponible en anglais pour l'instant, donc il faut s'armer de patience si vous n'êtes pas un lecteur assidu en anglais. Grosso modo, c'est ça, je m'attendais à... je connais un peu les influences, il aime beaucoup les western spaghetti, il aime beaucoup... le cinéma de genre, donc tu sais, par exemple Kill Bill, c'est quasiment un copier-coller de Lady Snowblood, qui sont des films japonais des années 70 et tout, donc je connais un peu son univers, ou en tout cas ses influences, puis j'ai été quand même un peu surpris ici de pas les voir dans ce livre-là. Il fait vraiment des analyses de films, oui, qui l'ont marqué, mais pas des films nécessairement qu'on peut retrouver dans son œuvre par la suite, ce qui m'a un peu... pas choqué, mais en tout cas, tu sais, ça m'a surpris un petit peu. Puis c'est beaucoup des films...
Ouais, t'aurais aimé ça, là, un peu, le pourquoi Kill Bill,
c'est ça,
puis
ouais.
Comment...
T'sais... C'est pas ça. C'est vraiment pourquoi les années 70, c'est la meilleure décennie de cinéma. Grosso modo, c'est ça un peu son livre. Puis c'est un peu bizarre, parce que la construction est vraiment particulière, puis j'ai pas aimé vraiment sa construction, parce qu'il explique pas c'est quoi son livre, vraiment. Tu sais, on le comprend, Cinema Speculation, il fait comme des what-if, essentiellement, là, où
ça
il analyse.
Un podcast.
Il y en a un podcast, en plus.
Ah oui, c'est
dans
vrai.
Dans le fond, les années 70, c'est genre une ode au nouveau Hollywood, là.
Ouais, il en parle dans 2 ou 3 chapitres. Le nouveau Hollywood, mais les deux, il y avait les film brat, je pense qu'ils appellent, qui sont les gros réalisateurs de cette époque-là, c'est-à-dire Francis Ford Coppola, Spielberg, Scorsese,
De Palma,
puis d'autres, que des fois qu'on associe avec ça, comme William Friedkin qui a fait L'Exorciste, ou Peter Bogdanovich. En tout cas, mais essentiellement, il y a ça, puis il met un peu en parallèle eux et les justement ceux de la contre-culture, Dennis Hopper avec Easy Rider, tu sais, tous les films, c'est l'espèce de nouvelle vague ou le nouveau Hollywood qui s'est imposé comme le Hollywood essentiellement, là, qui voulait clasher avec les films propres puis des films de studio des années 60. Il en parle, puis c'est vraiment les chapitres les plus intéressants. Je revenais à la construction parce que chaque chapitre, c'est un film, entre guillemets, ou un sujet. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur tout au long du roman, du livre, ce que je déplore un peu, parce que j'aurais aimé ça, tu sais, avoir pas de quoi de linéaire nécessairement, mais tu sais, pourquoi est-ce que tu en arrives à parler de ce film-là? Puis il n'y a pas vraiment ça. C'est vraiment plus comme chaque chapitre est indépendant, puis tu pourrais juste lire un chapitre puis avoir une idée un peu du livre. Puis les chapitres les plus intéressants, c'est ceux où ils sont plus personnels, c'est-à-dire le premier et le dernier. Toutes les autres dans le milieu, c'est vraiment plus des analyses qu'il a fait. Il a même fait des entrevues avec des gens du milieu et tout. Le premier est vraiment intéressant. Il explique pourquoi j'aime ça, des films d'exploitation. On appelle ça des films d'exploitation. C'était leur année, les années 70. C'était des films faits vite dans le but, c'est de divertir. Puis que c'est ça, c'est des films cheap, là, qui n'ont pas d'argent nécessairement. Fait que tous les films de ciné-parc, tous les films...
Les films de monstres, un peu.
Les films de monstres, pas juste aussi. Il y a une grosse culture aux États-Unis, puis il a essayé de faire ça, Tarantino, puis c'est son film le moins connu, puis le moins populaire, disons. Il y avait beaucoup de double feature aux États-Unis. Fait que tu payais pour aller voir deux films au cinéma. Tu rentrais à 7 heures, puis tu partais à minuit, j'imagine. Là. Mais il a fait ça avec Robert Rodriguez. Il y avait Planète Terreur et Dead Proof qui a essayé de recréer cette expérience-là, mais on n'a pas vraiment cette culture-là au Canada des programmes doubles nécessairement. Quoique, quand on va au cinéparc, il y a deux films là, habituellement, mais c'est ça. Aux États-Unis, même dans les cinémas, tu payes pour deux films, puis tu vas en voir. Puis tu sais, il y en avait que c'était des films d'exploitation, mais il y en avait que c'était quand même des grands films. Mais bref, il raconte que lui, il était à Los Angeles, sa mère était monoparentale, parce qu'elle fréquentait du monde, puis souvent c'est ces gens-là qui les amenaient voir des films. Puis il raconte un peu comme qu'il allait voir des films qu'il ne devait pas voir à un âge beaucoup trop jeune. mettons, le Massacre à tronçonneuse qu'il allait voir à genre 8 ans, ou des affaires de même, puis qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et beaucoup aussi, les années 70, la liberté sexuelle, des trucs comme ça. Il y avait pas mal de nudité dans les films, puis il disait que lui, ça ne l'attirait pas vraiment ou qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Mais en tout cas, mais c'est comme ça qu'il est devenu un peu cinéphile, puis qu'il est devenu amateur de ce cinéma-là un peu plus libre. Puis il raconte aussi comment il a découvert le cinéma afro-américain, parce que ça aussi, c'était une grosse période de films de blaxploitation, qui sont des films d'exploitation, mais vers un public plus afro-américain. Puis lui, il y avait le chum, justement, de sa mère qui était afro-américain, puis il l'amenait voir ces films-là. Fait que c'est tout un cinéma auquel on n'est pas vraiment familier, nous, ici. Il a fait Jackie Brown, c'est son troisième film, Jackie Brown, qui est un blaxploitation, si on veut, puis un hommage à ça avec des actrices comme Pam Grier, qui sont ultra connues dans le cinéma afro-américain, mais que nous, on ne connaît pas vraiment ici. Si je reviens au livre, je l'ai vraiment trouvé intéressant, mais j'avais comme l'impression... Puis tu sais, je m'y connais quand même beaucoup en cinéma, même en histoire du cinéma, puis... Il me manquait beaucoup de codes. C'est un peu dommage. Et tu sais, il nomme des gens, puis tu sais, comme ah, tu sais, telle actrice pas connue dans ce film-là, moi je l'aurais casté avec telle autre actrice pas connue qui avait joué dans ce western-là qui jouait à TV en 68. Là, t'es comme.
Ok.
c'est facile d'être un peu overwhelmed par la quantité d'informations qui te garochent, puis que t'as pas vraiment de référent. Tu sais, des fois, tu sais, par exemple, il fait What if. Brian De Palma avait fait Taxi Driver au lieu de Martin Scorsese. Puis là, il analyse un peu comment il aurait approché telle affaire. Tu sais, il y a des chapitres, les films que je connaissais puis qui abordaient, c'était vraiment intéressant. Fait que je me dis que les films que je connais pas puis qui abordent, ça doit être des chapitres intéressants. Mais vu que je les ai pas vus, ben je manquais un petit peu de référent. Par contre, ça fait comme une belle watchlist peut-être à essayer de découvrir puis de redécouvrir les chapitres puis l'analyse qui en tire. Je pense que ça pourrait être... Tu sais, il y avait des films quand même grand public, là, comme je l'ai mentionné, Massacre à la tronçonneuse. Okay. Non. Il reste vraiment dans les années 70. Je pense qu'il y a un film qui date de 81, mais sinon, c'est tout dans les années 70.
Okay.
Puis c'est ça. Tu sais, il y en a qui est 68 aussi avec Steve McQueen qui s'appelle Bullet. Mais sinon, il y a Dirty Harry, par exemple, c'est un des premiers
avec
films
Eastwood,
de avec Clint Eastwood. Il revient avec un autre film de Clint Eastwood qui est Escape from Alcatraz, je crois. Mais mm-hmm. Il parle un peu de la persona qui a été créée avec Clint Eastwood, puis comment est-ce qu'il s'est défait, comment il est passé du cowboy tough au policier tough, mettons. Puis, il y a
pourtant,
des...
c'est un passage qui semble assez simple.
Oui, il semble assez simple, mais il raconte, puis c'est ça aussi que je remarque de plus en plus, c'est dur. Tu sais, souvent, il y a des films qui vont être praise, pas possible. C'est un film, mettons, Casablanca, on va dire. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, puis tout. Puis c'est dur de comprendre vraiment pourquoi. Tu sais, il y en a qui ont bien vieilli, mais il y en a que c'est vraiment, il fallait être là pour comprendre à quel point il était novateur par rapport à ce qui se faisait. Puis il essaie de l'expliquer aussi à certaines reprises. T'sais, il disait Rocky. Lui, c'était un de ses films préférés à l'époque, Rocky. Puis il expliquait que Rocky, il gagne pas le combat à la fin du premier film, mais ça finit bien. Pareil. Puis dans le temps, c'était tellement cynique, le cinéma aux États-Unis, que le personnage principal, que ce soit une comédie, un drame, un film policier ou peu importe, le personnage principal, il meurt tout le temps à la fin. Mais Rocky, lui, il meurt pas, puis il gagne, entre guillemets, ou en tout cas, il prouve son point, parce que le but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est de prouver que d'un nobody, il peut devenir quelqu'un. Puis, tu sais, il explique un peu pourquoi c'était important à l'époque, ce film-là, parce qu'on l'oublie peut-être, mais Rocky, ça a gagné l'Oscar du meilleur film, meilleur scénario, meilleur plein d'affaires. Tu sais, moi, j'écoute ça aujourd'hui, Rocky, puis je trouve ça un peu dull.
Oh, ouais, c'est ça.
Ça n'a pas super bien vieilli, puis c'est un peu sketch. Mais, tu sais, il nous remet bien dans le contexte particulier de cette époque-là, puis pourquoi est-ce que les films qu'il aborde, ils sont marquants ou pas. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Puis, ça me donne envie de regarder les films qui abordent dans le livre. Mais c'est ça, tu sais, sur les peut-être 12-13 chapitres qu'il y a, il y a peut-être trois films que j'avais vus, là, tu sais, dans les principaux. Il fait référence à d'autres films que là, j'ai vus, là, mais... Fait que, grosso modo, parce que je vois le temps qui file, grosso modo, j'ai été pas nécessairement déçu. J'ai été un peu abasourdi, peut-être, par la quantité d'informations puis par le peu de connaissances de ce cinéma-là des années 70. Il y a certains films qui sont restés dans notre imaginaire, Les Parrains, justement Rocky, une couple de films comme ça des années 70, mais moi, c'est vraiment une décennie qui est comme un blind spot dans mon radar. T'sais, je connais beaucoup le vieux cinéma, les années 60, évidemment, la contre-culture, puis après ça, les années 80. D'ailleurs, selon lui, les années 80, c'est la pire décennie de films.
Avec
puis,
les Casper.
Avec quoi? C'est 90. Oh. Ça. Non, mais tu sais, les années 80, pourtant, c'est, là, de ce temps-ci, il y a comme une renaissance des années 80, que ce soit avec Stranger Things, mais en tout cas, tout l'aspect culturel des films d'horreur, de plein d'affaires. Tu sais, on associe ça beaucoup au cinéma des années 80, puis il est comme, c'était
mais
pourri,
j'imagine que si, tu sais, que c'était, en gros, le Nouvel Hollywood, c'était beaucoup de films d'auteur qui étaient quand même populaires. Fait que là, les années 80, c'est vraiment la grosse naissance du blockbuster.
Ouais.
Si les années 70, c'est ta dessinée préférée, ça clash quand même.
Ouais, ouais, ouais.
La déception vient de là.
Ouais, il y a ça, puis il y a aussi peut-être la formation d'une industrie.
Ouais.
Tu sais, à proprement dit.
C'est
oui,
les blockbusters
avant,
d'été, mais... là.
Ouais, ouais,
comme
c'est
le film,
ça.
Faut qu'il sorte comme avant le début de l'été ou proche du temps des fêtes, si tu veux.
Exactement.
Blockbuster punk.
Alors que dans les années 70, t'avais une plus grande liberté, justement, de faire autre chose ou d'expérimenter autre chose. Puis c'est des films comme Easy Rider, que c'est comme le film contre-culturel. Ben, tu sais, lui, il a fait beaucoup d'argent, mais tu sais, si ça sortait aujourd'hui, ça sortirait dans 40 salles. Tu sais, il n'y a pas personne qui verrait ce film-là. Mais c'est ça. J'ai aimé ma lecture, mais c'est ça. Je manquais peut-être un peu de clé. Fait que si jamais vous voulez tenter de cette lecture-là, le livre se trouve dans les librairies, sur Amazon aussi. On ne veut pas encourager Amazon, mais c'est parce que les livres anglophones sont un peu moins distribués ici. Je ne sais pas s'il va y avoir une traduction francophone, probablement, parce que c'est Quentin Tarantino.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est une bonne watchlist, je pense, pour découvrir surtout un cinéma moins mainstream, justement, de Hollywood. C'est ça. C'est des belles analyses. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit nécessairement, puis il est dur sur certaines personnes aussi. Mais globalement, j'ai quand même aimé ma lecture, mais la structure était bizarre, puis j'ai pas vu le film. Fait que ça ressemble à ça.
Bon.
On va aller en musique. Hein. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais on va aller en musique vite. Et au retour, on va faire un quiz express. On n'aura pas le choix. Il ne reste plus beaucoup de temps. On revient dans quelques instants.